Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous avons rendez-vous cette fois-ci avec Carole et Aurélien, installés en maraîchage à la ferme du Masrival, sur la commune de Magnargues-et-la-Tour, dans la basse vallée de la Sorgue. Aurélien et Carole, bonjour. Je voudrais que vous vous présentiez vite fait, que vous présentiez votre exploitation.
Eh bien, Aurélien Hainaut, moi j'ai 35 ans, maraîcher à la Tour-sur-Sorgue, au jardin du Masrival.
Avec ta compagne
Carole Parodi, qui donc maraîchère avec Aurélien au Masrival, dans la vallée de la Sorgue.
Alors déjà, je voudrais savoir comment vous êtes venu à faire de l'agriculture. Est-ce que c'est inné chez vous? Est-ce que vous êtes né dedans? Est-ce que vous y êtes venu petit à petit? Quel a été votre cheminement et pourquoi vous avez choisi le maraîchage ici?
Alors, moi, l'agriculture, c'est un choix de vie. Parce que c'est la seule façon de faire 15 métiers à la fois. Et j'ai jamais réussi à me décider pour un métier, donc j'en ai choisi plusieurs à la fois. Et puis, deuxièmement, pour la vie de famille. Moi, mettre mes enfants à la nounou, c'était pas concevable. Donc, il fallait que je puisse les élever tout en travaillant.
D'accord.
Ah, moi, je suis fils de prof et d'instit.
D'accord.
Donc, pas du tout du milieu agricole. Dans l'Oise.
Dans l'Oise.
Et voilà. Je suis arrivé là il y a 20 ans et je suis jamais reparti.
Ah oui, on est bien à l'Aveyron. Hein,
ah, c'est pas si mal.
C'est pas si mal.
Moi, c'est pareil, je suis pas du tout issu du monde agricole. J'ai rencontré Aurélien, j'avais 17 ans. Je cherchais ma voie. J'étais à l'époque, je voulais travailler dans la microélectronique. Et puis, j'ai commencé à chercher, à creuser, à m'intéresser vraiment aux plantes. Donc, je suis partie dans l'horticulture et petit à petit, partie dans l'agricole. Et voilà.
Depuis combien de temps vous êtes paysan et ici au Masrival?
Masrival, ça fait 6 ans et qu'on est dans le monde agricole, ça fait 15 ans.
Et pourquoi vous avez choisi le maraîchage?
C'est pas un choix le maraîchage. À l'époque, on n'a pas pu acheter une ferme suffisamment grande pour faire autre chose, donc on a fait du maraîchage.
Parce qu'à la base, on est éleveur en brebis laitières. Et enfin, c'est là-dedans qu'on a le plus bossé, quoi. Brebis laitières, moi un peu de brebis viande. Et on a essayé d'acheter plusieurs fois des fermes, et très compliqué, quand t'es pas issu du monde, justement.
Ouais, que t'as pas un petit million d'euros sous la main.
Et on a eu l'opportunité d'acheter le Masrival, c'était la Safer qui vendait, donc il y avait beaucoup de projets de maisons secondaires sur le Masrival. Ouais. Et on a posé un projet de maraîchage, et c'est comme ça qu'on a...
Et comme à l'époque, il fallait qu'on loge toute la famille, et on a acheté le Masrival.
D'accord.
Est-ce que le métier que vous exercez vous permet de vivre correctement? Est-ce que vous n'êtes pas trop endetté?
On n'est pas du tout endetté, on a tout fait avec la bite et le couteau, comme on dit. Et oui, on en vit plutôt décemment, oui.
Financièrement, c'est pas non plus la panacée si on fait vraiment le calcul. On en vit bien dans le sens où on a une qualité de vie, un cadre de vie qui est quand même... grand lieu, enfin, qui est bien, quoi, il me semble. Mais financièrement, c'est pas...
Moi, je pense qu'on n'est pas les plus malheureux.
Non, on n'est pas les plus malheureux.
Tire en vacances, réparer la bagnole quand il y a un gros problème dessus.
Oui, c'est toujours au jour le jour que tu fais les dépenses, mais on arrive à peu près à suivre. Oui.
Bientôt, c'est... bientôt, c'est la quille. Vous allez lâcher cette exploitation et vous allez partir sur autre chose.
Oui.
Alors qu'est-ce exactement? Parce que j'ai vite fait des explications, ça me paraît très intéressant.
Alors, on a été choisi pour récupérer une ferme sur le Larzac en location. Donc on va la redevenir éleveur de brebis, mais en brebis viande.
Ouais.
Et reprendre notre premier amour et notre spécialité.
D'accord.
On va atterrir à la ferme du Cune, à côté entre la Salvetat et la Blaquererie, plein milieu du Larzac.
J'aimerais que vous m'expliquiez qui chapeaute ça, comment ça se passe. Parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même du cooptage qui vous a permis d'accéder à cette ferme-là.
C'est un appel à candidature nationale qui a été opéré par la Société Civile des Terres du Larzac, la SCTL. Donc c'est une société civile qui est chargée de gérer les terres qui devaient faire partie du camp militaire à l'époque, qui ont été restituées, qui ont été gardées par l'État et qui sont louées à des agriculteurs, des artistes ou des simples habitants.
D'accord.
Et donc c'est géré en société civile et on a été choisi suite à l'appel à candidature. avec un dépôt de dossier et tout le...
Ouais, d'accord. Et ça se passe comment? Vous passez devant un jury Enfin, je sais pas.
Sur dossier. D'abord, ils font un choix sur dossier, puis après, ils demandent à rencontrer les dossiers qui sont retenus.
D'accord.
Rencontrer les gens porteurs de dossier.
Et là, pendant 6 mois, t'as la boule au ventre et t'attends.
Il y a eu le Covid, donc tout a été reporté de moi, donc ça a été...
Et nous, on partira, on tendra les voiles et on ira vivre ailleurs.
Donc en fait, pour entrer, on achète une valeur d'usure sur le bâti, les clôtures, qui n'est pas une valeur vénale. Donc du coup, comparé à, je sais pas, une ferme comme ça, combien ça peut valoir en valeur vénale? Ça peut valoir entre 600 et 800 000 euros à l'achat. Et là pour, on va dire, autour des 200 000 euros, on reprend une ferme avec une maison d'habitation. Bon, après, il y a un rachat du troupeau et tout, mais ça, c'est en dehors de la société civile. Et ça nous permet d'avoir une ferme à moindre coût, entre guillemets, parce que c'est quand même 200 000 boules à sortir. Mais ça permet à des gens comme nous qui ne sont pas issus du monde agricole, disons qu'ils n'ont pas la ferme à papa et maman à reprendre, de reprendre une ferme plus facilement. Quoi.
C'est un système unique en France qui est né de la lutte du Larzac.
Ouais.
Et qui permet à des paysans lambda qui n'ont pas forcément des millions dans la poche de pouvoir devenir agriculteurs et de perpétuer un métier qui est en perdition totale, sachant qu'il y a plus de 80% des paysans qui arrivent à la retraite dans moins de 10 ans et qu'il n'y a pas beaucoup de repreneurs. Et les prix, ils sont pour beaucoup. Quoi. La mentalité agricole n'aide pas, mais les prix, ils sont pour beaucoup.
Pour avoir visité beaucoup de fermes avant d'être maraîcher, justement, on s'est cassé les dents un paquet de fois sur des fermes qui dépassaient le million d'euros. Quoi. Ah ouais, c'est des trucs de malade.
Avec un crédit sur 40 ans et tout.
C'est même tes enfants qui vont hériter des crédits.
Tu t'endettes sur 2 générations, quoi. C'est de la folie.
Nous, une fois, il y a le Crédit Agricole qui a voulu suivre. On s'endettait sur 600 000 euros. Mais au bout d'un moment, quand tu calcules vraiment, tu vas bosser juste pour payer tes emprunts. Quoi. Et c'est bon, au bout d'un moment.
Quelque part, est-ce que c'est pas un système qui explique la surexploitation des terres? Puisque ça coûte une blinde, faut vendre beaucoup, faut vendre vite, faut vendre le plus cher possible.
Mais ça rejoint tout à fait notre société actuelle. De toute façon, tout doit aller toujours trop vite et tout doit être toujours moins cher. Donc il n'y a pas 36 chemins.
Hein. Je dis ça aussi. Il y a une piscine juste à côté avec des enfants dedans. Donc de temps en temps, on entend des ploufs, des « ah !» des «
c'est la nounou d'été.
On a une table de luxe, entre guillemets, parce qu'on mange... si on devait la payer, toute cette nourriture, cette qualité de nourriture, ça nous coûterait une blinde. Donc il faut être conscient de cette richesse aussi que ça apporte, quoi, ce métier.
Ouais, c'est sûr.
On n'est pas riche que d'argent, quoi, en étant paysan. Ça, c'est clair. Ah non, mais c'est sûr.
Et produire sa nourriture, ça coûte du temps. Ça coûte moins d'argent, mais ça coûte du temps.
Ouais,
du temps et de l'huile de coude.
Est-ce que vos gamines, elles ont envie de prendre la succession? Est-ce que c'est un métier que vous conseillerez à vos enfants ou à d'autres personnes?
L'agriculture, oui. Le maraîchage pur, non. Ah. Ça dépend dans quel contexte il est fait, j'irai.
Si je crois savoir, Aurélien, c'est un peu cassant, le maraîchage, non? T'as un cursus médical un peu chargé, là, sur ces dernières années.
On peut dire ça comme ça, mon petit Francky, on peut dire ça comme ça. Disons que la position à genoux, accroupi, faire l'autruche, en gros, toute la journée, c'est pas forcément, pas forcément l'idéal à long terme, c'est sûr. Bien que tous les métiers agricoles sont en général usants, mais maraîcher, c'est un fracasse bonhomme, hein, c'est rien d'autre. Hein.
Et donc tu conseillerais pas le maraîchage?
Pas comme on l'a fait nous, non.
Ouais.
Pas non.
Des machines alors?
Pas comme on l'a fait nous.
Non, pas forcément des machines, mais...
Pas sur un terrain qui penche, pas dans l'Aveyron peut-être, dans une région maraîchère, ce serait peut-être un peu plus simple.
Uh-huh.
Parce que on n'a pas du tout un climat adapté à faire des légumes.
Ouais.
Donc c'est un peu,
c'est
très aléatoire entre les sécheresses, les insectes qui travagent tout. Tu sais jamais vraiment trop ce que tu vas rentrer à la fin de l'année, en fait.
Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans? Si vos filles elles veulent reprendre une affaire, à quoi elles devront avoir affaire?
Je sais pas à quoi elle peut ressembler, mais j'espère qu'elle reviendra vers des petites fermes, des petites structures. et que ça arrêtera d'être toujours plus gros, la course au plus gros tracteur, au plus de terre.
Moi, je pense que tant qu'il y aura de l'énergie à mettre dans les grosses machines, malheureusement, elle continuera telle qu'elle est.
Ouais.
Avec quelques noyaux de possible, comme là, à droite, à gauche, les petites fermes en bio qui font boule de neige sur leurs voisins, etc., qui se développent à droite, à gauche. Mais je pense qu'il faudra encore, malheureusement, de nombreuses décennies avant que l'être humain devienne vraiment intelligent à ce niveau-là.
Ouais, parce que rien que là, pour le Covid, tout le monde commençait à dire les gens s'orientent plus vers les petits producteurs pour éviter les supermarchés, etc. Mais dès que c'est fini, les gens, ils ont lâché. Enfin, nous, rien que nous, on l'a vu, il y a plein de clients qu'on n'a plus jamais revus.
Du jour au lendemain, tout le monde a raccroché à la grosse machine destructrice, c'est terminé, et tout le monde s'en fout.
C'est juste de la facilité, point marre. En fait, les gens, ouais,
moi,
je
me suis entendu dire que ce qui risquait de se passer, c'est un creusement entre les très gros qui allaient devenir de plus en plus gros,
ouais,
et les petits-petits
ouais,
qui
ouais,
se multiplient, mais ouais, à petite échelle.
C'est ça.
Pour satisfaire d'autres demandes.
C'est exactement ça. Qui va
se passer, il va y avoir deux mondes un peu dans la
l'agriculture. Je pense que ça va durer encore longtemps, ça. Que ça va durer longtemps.
On arrive un peu au bout de l'exploitation chimique, si je puis dire, de la terre.
Ouais.
Les rendements qui sont en baisse. Il y a...
Ouais, mais ils vont toujours trouver. Ils vont toujours trouver.
De l'eau et tout. Il y a des régions, ils ont plus d'eau dans le nord de la France.
Ouais, mais t'entends ce qui se dit. Enfin, ils vont trouver des alternatives pour quand même continuer.
Bah là, malheureusement, la première pensée du paysan, qui n'est pas un paysan dans la plupart des régions, qui est un exploitant agricole, de toute façon, c'est comme ça qu'on le forme
chef
à l'école. Hein.
C'est
un chef d'exploitation qui va exploiter la terre. Donc pour moi, quand on dit ça, on a tout dit.
La terre n'est plus qu'un support.
On l'utilise juste pour faire du fric et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais quand on fait comme ça, on va dans le mur, c'est clair. Mais malheureusement, pour l'instant, il y a les machines, la chimie au secours de tout ça qui maintient plus ou moins tout ça à flot.
Pour l'instant.
Et les primes. Joyeuse Europe.
Les primes européennes.
Joyeuse Europe. Mais en même temps, les primes, ça fait râler tout le monde. Mais en même temps, si on les enlève demain, tous les produits agricoles, c'est x2, voire x3. Donc il y en a un paquet qui vont grincer des dents quand ils vont les remplir le caddie.
Faut dire que 80.
Et même le paquet de pâtes, il y en a un paquet qui vont plus pouvoir l'acheter s'il n'y a plus les primes demain.
Faut se dire que 80-90% des paysans aujourd'hui, s'ils n'ont pas les primes, ils n'ont pas de revenus. C'est justement comme on achète tout au plus bas, ils n'arrivent même plus à se rémunérer.
Ah oui, mais vu les prix des loyers.
Hein. Et les primes données aux agriculteurs sont données aux consommateurs aussi, puisque c'est les consommateurs qui en profitent. C'est pour maintenir un marché au plus bas pour le consommateur qu'on donne des primes à l'agriculteur.
C'est le consommateur à changer tout ça. C'est pas que aux paysans. Mais
donc vous êtes certifié bio.
Ouais.
Et on vous surveille, on vous emmerde un peu avec ça ou pas?
Bah surveille, on a nos contrôles annuels. Pour moi, c'est pas parce que tu seras paysan bio que tu vas te gaver, quoi, ça c'est clair.
Oui, non,
parce que
ça c'est clair.
Hein.
Nous, je vois les premières années ici, on n'a pas pris la certification parce que justement il fallait la payer et que on a travaillé en bio et tout, mais non certifié parce qu'on ne pouvait pas sortir le montant pour la certification, quoi.
Ça coûte cher la certification ?
C'est en rapport avec ta production, la taille de ton exploitation. Mais nous, je vois pour une structure comme ici, c'est 500 euros par an. Ben, au début, sortir 500 euros par an, pour nous, c'était impossible.
Ouais.
Donc on l'a pris après. Quoi.
D'accord.
Au bout de 3-4 ans, on l'a pris. Enfin, en tout cas, pour nous, ça n'a rien changé sur nos prix, ça n'a rien changé sur nos méthodes, sur nos façons de cultiver, quoi que ce soit, vu que depuis le début, on fait tout.
On a toujours tout fait en bio, on ne sait pas faire autrement. Donc, comme
on a toujours
ça,
été paysan bio. Ça fait 15 ans qu'on est paysan bio.
La chimie, je ne sais pas l'utiliser, donc je ne sais pas de m'en servir. Quoi.
Même quand tu sais soi-disant l'utiliser, il y a des accidents.
Il y a du bon dans tout ce qui est gestion satellite sur les tracteurs, etc. Parce qu'au final, c'est de l'économie de gasoil. Hein. Tu fais pas de repassage de foie, tu fais pile poil ce qu'il faut. Le tracteur tourne pile poil au régime nécessaire, etc. Là-dessus, c'est un gain pour la planète. Hein. Par rapport à un chauffeur qui va s'endormir un peu, ou qui va zigzaguer, qui peut te consommer deux fois plus d'énergie pour le même champ.
Mais non, dans tous les cas, c'est pas une bonne chose.
Mais je pense que c'est n'importe. Enfin, c'est le serpent, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue.
Le rapport à la terre, il n'y a plus d'agriculteurs en fait.
C'est chefs d'exploitation.
Les machines et l'entretien des machines toujours plus cher, donc il faut toujours rentrer encore plus dessous et c'est toujours le même système qui se bouffe la queue.
L'engrenage perpétuel.
Voilà. Ouais. Après, de là à revenir aux chevaux, il faut pas. Il faut,
oui, non,
je pense qu'il faut faire une demi-mesure. Mais...
Il y en a qui réfléchissent, notamment sur les terrains en pente et tout.
Mais il y a des...
Le cheval aurait sa place.
Il y a des endroits où il aurait sa place, clairement. Dans l'entretien des vignes ou même en culture maraîchère, etc. Si tu as les terrains qui s'y prêtent, il a clairement sa place.
Ouais. Mais bon, de là à faire un bond autant en arrière, je sais pas.
Et nourrir toute la planète avec les chevaux, je suis pas sûr. Il faut voir que les gens sont beaucoup moins courageux qu'avant aussi. Hein.
Ouais, ouais.
Parce que
c'est de loisir. Hein.
Faire des journées derrière un cheval ou des bœufs, c'est beaucoup moins simple que de regarder la télé le cul dans le canapé. Hein.
Ou de faire du télétravail.
Ou de faire des raisonnements à la terrasse du café.
Ouais. Tu dis ça, mais tu dis rien, quoi.
Ouais, j'ai rien dit.
C'est un peu ça, ouais.
On peut faire des raisonnements tout en travaillant, c'est plus constructif.
Ouais.
À mon sens.
Surtout quand tu fais 10 heures de boulot ou 12 heures de boulot, t'as le temps de réfléchir quelque part.
T'as le temps de dire des conneries avec ton acolyte ou même à dire des conneries à toi-même si t'es tout seul.
Ah, voilà. C'est bon pour les plantes.
C'est bon pour le maraîcher aussi, des fois.
Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Je casse, fracasse sans m'écrouler sous la masse. Je construis, détruis, mais jamais ne me lasse. Je n'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour devoir se dire... J'abjurais, je conjure. Je ne suis pas aux normes, je ne suis pas à faune. Je hurle, je brûle, fume et me consume. Quand je monte des montres sans jamais rendre de compte. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir se dire que ça décolle. Je pousse des choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum. Observer des cortiques, autant de temps passé comme vient le déclic. Je passe, repasse, je file et se défile. Toutes ces choses si possibles, laissez-moi aussi facile. Je me donne du mal, je fais le maximum. J'en fais des tas, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle. Je pousse les choses au maximum. Que ça décolle. Aucune pause ni ultimatum. J'en fais des tonnes, j'en abats des tonnes. Je me donne du mal, je fais le maximum. Pour trouver ma voie, y mettre les formes. Je casse, fracasse sans m'écrouler sous la masse. Je construis, détruis, mais jamais ne menace. J'ai pas peur des erreurs, elles me façonnent. Et un jour pouvoir me dire que ça décolle.
Bonjour, c'est Radio Centrafrique. Vous avez un petit mot ou... Ouais, non, sinon ça...
Ça pète tes oreilles.
Et comme j'entends ronronner là.
Très bien. Donc on va commencer la visite,
la visite des terres.
À tout à l'heure. Donc là, on part sur votre exploitation. Le mot exploitation, ça vous va ou pas?
Non, on part dans notre grand jardin.
D'accord. Un grand jardin vivrier et... Comment dire, hein, qui te rapporte des sous, quoi, pour payer les factures.
C'est ça.
Ouais. Donc, comment il s'appelle le cours d'eau, au fait, qui passe chez vous, là?
C'est le ruisseau de Marnag.
Marnag?
Ouais.
D'accord.
Oh, il y a deux brebis avec aussi. Il y a Mout Mout et Chocolatine.
Ils s'entendent bien, brebis et ânes?
Les ânes... Dans les gros troupeaux, on dit que les ânes, ils protègent les brebis.
Et celui-là, il est bien pellute, là. Il a pas trop chaud.
Ouais, non, c'est un bon du Poitou, c'est comme ça. C'est...
D'accord. Ça se tombe pas, les ânes?
Non, non.
C'est... Ça fait partie de mes questions.
Et lui, encore, ils sont beaucoup dans les bois, il a pas beaucoup de laine, enfin de poils. C'est pas de la laine, c'est pas de la vie. Parce qu'on en a vu l'autre jour, on est allé dans un zoo, là, le jardin des bêtes à Rodez, là-haut. Il y en avait deux. Ils avaient des dreads longues comme ça, mais des plaques de dreads longues comme ça. Nous, ils se brossent. Ouais, le jardin des bêtes.
Ouais, ils appellent ça parc animalier avec un mini parc d'attraction à côté.
Il y a un petit parc d'attraction, c'est chouette. C'est vraiment chouette.
Oui, alors on passe dans une allée de buis qui repart au bout de un an, deux ans.
L'an dernier, je crois, la dernière attaque.
Ah ouais?
Ça repart.
L'an dernier, vous en avez eu? Parce que
ça fait deux ans de suite qu'on en a.
D'accord.
Ils montent là, ils sont encore nus.
Chez vous, elle est passée il y a deux ans.
Ouais.
Nous, elle est passée l'an dernier, là, tu vois, elle a fait crever. Mmh. Et là, elle est sur cornus et elle est montée sur le Larzac aussi.
Ah, vous avez une ruche?
On a trois ruches.
Il y en a deux.
Ouais. Ah ouais. En grandissant, on peut peut-être avoir du son là.
C'est important parce que c'est quand même un allié pour nous.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Un allié de taille.
Mais ça se fait des apiculteurs qui te proposent de poser une ruche ou
ouais,
de...
moi j'ai proposé à plusieurs, mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu parce que c'est trop loin.
Mais ça les intéresse pas.
J'ai mon cousin, il était prêt à le faire, ça, de venir jusqu'en Aveyron.
Parce qu'il habite l'Hérault.
Vous savez ce que c'est comme abeille?
L'abeille noire, c'est de l'abeille de pays.
C'est pas de l'italienne, de l'anglaise?
Non, bon, elle est toujours un peu hybridée, mais normalement c'est de l'abeille noire.
D'accord. Et donc ça, c'est pour quelque part
just a fun.
Polliniser ouais, aussi.
Polliniser et puis aider les abeilles aussi à les perpétuer parce que c'est une espèce qui ramasse chaque année. Tu vois, l'an dernier j'avais les trois ruches pleines, au printemps j'en avais une ruche avec à peine un point d'abeilles.
Donc
j'ai réussi à diviser et en faire une deuxième.
Parce que là, on a trois ruches, mais il y en a une, il ne se passe rien.
Celle-là est vide.
Ah, ouais.
J'ai réussi à en refaire une, là, à faire des abeilles, mais j'aurais pas mis, toujours pas de miel cette année.
Ouais.
Mais l'an dernier, on a 80, dans la vallée, dans la région, là, 90% de mortalité.
90
ouais.
Ah ouais.
Ouais, l'apiculteur local, il a enlevé toutes ses ruches, tout est mort. Mon voisin qui a 50 ruches, il en a perdu 45. Moi, j'en avais 3, j'en ai perdu 2.
Bon, donc là, on commence à arriver, là. Là, je vois sur la gauche...
La ciboulette.
La ciboulette. Putain, vous en avez plein les pieds. Là, c'est du persil.
Persil, là, il y a de la verveine.
Ça, c'est quoi?
Verveine.
D'accord.
Ça, c'est la verveine pour le yadou.
Ouais,
ah ouais,
pour le yadou.
Vous le vendez au yadou?
C'est pour Véro, ouais.
D'accord.
Et après, là, ce terrain, on l'a... Tu vois, comme il penche un peu.
Ouais.
On l'a mis en butte permanente.
Ouais.
On le cultive en butte permanente. Pour éviter, pour canaliser l'eau, éviter de se faire...
Dans le sens de la pente, pour éviter les dégâts quand il y a
des... Au début, on travaillait dans l'autre sens et en fait, on se faisait tout défoncer.
Ouais, d'accord.
La terre repartait tout le temps avec les résurgences, les machines et tout.
D'accord.
Et depuis qu'on fait ça, c'est vachement bien, on a beaucoup moins de dégâts.
D'accord, il vaut mieux se mettre dans le sens de la pente.
Voilà, bah, tu vois, on dit que non pour le...
Pour retenir l'eau.
Le ravinage.
Ouais. Quand tu prends 200 ou 300 mm sur 24 heures...
Ouais, c'est ça,
je trouve que ça fait moins de dégâts quand t'as les fossés dans le sens de la
Du coup, comme c'est du coup, on cultive entre les buttes, c'est de la terre qu'on touche plus, donc ça s'enherbe et ça tient. Si l'eau elle passe dessus, ça tient, alors qu'on travaille vraiment que ce qu'il y a sur le dessus de la butte.
D'accord.
Donc, du coup, ça permet de tenir la terre. Ah. Alors que dans l'autre sens, on cultive donc, chaque année.
Là, vous avez quoi? Donc là, il y a persil, puis après, il n'y a rien, il n'y a plus
si,
rien.
Après, il y a des... Mais ça a été débroussaillé parce qu'il y a eu un gros désherbage à faire. Il y a des carottes, après, nous avons des navets, après, nous avons des oignons, après, nous avons des panais, et après, des choux rouges. Là, je m'arrête aux choux rouges et après,
il y en a encore. Hein.
Et après, encore avec
il y en a encore. Donc, vous avez deux tunnels, 45 par 7.
En bas, ici.
Ouais.
Et en haut, on a un tunnel de 9 par 20 et un tunnel de 6 par 20.
Et donc, le tunnel, c'est ce qui, grosso modo, vous permet de vivre, non?
Ouais, clairement.
C'est la rentabilité, la stabilité, la régularité.
En avant de saison.
Saison précoce et saison tardive.
Voilà, d'avoir des légumes d'été qui crachent vraiment, quoi.
On a des tomates
avant
le mois d'août.
Vous avez même des piments et tout.
Des
là.
Aubergines.
On ira. Putain, il fait une chaleur là.
Oui, là c'est.
Ah, on va traverser mon beau Franck.
Et là, on en est à combien là, de température à votre avis?
40, 45.
Ah ouais. Ça craint pas pour les plantes?
Elles sont en arrêt végétatif, hein, au-delà de 35, je crois, c'est un stop végétatif.
D'accord, ok. Et le même système pour l'ouverture, tu fous des gadgets en plastique pour écarter les bâches. D'accord, donc là on passe dans une allée d'aubergines. Toute race. Ça, c'est du sauvage là à gauche.
Ça, normalement, c'est des pastèques qui se font envahir. Parce qu'il
d'accord. Elles repoussent toutes seules. Vous n'avez pas des graines F quelque chose là des...
F1, si, on en fait de l'hybride. On fait des deux. On fait de la variété ancienne et de la variété hybride. Parce que
d'accord.
La variété hybride.
Le rendement.
T'assures le rendement et la variété ancienne. T'assures
avec l'hybride, tu vis.
T'assures la perpétuité. Qu'est-ce que tu dis?
J'ai avec l'hybride, tu vis.
Ouais.
Avec l'ancienne, t'as du goût.
D'accord. C'est ça. Donc, il fait une chaleur insoutenable. On se croirait à Marrakech au mois d'août,
voilà pourquoi, quand
au milieu des Parisiens.
Nous étions à la piscine.
Donc, vous avez bossé ce matin, vous avez ramassé
ouais.
ou quoi
ouais.
Ah ouais, ouais. Tous les jours, il faut venir ou quoi
De 6h à 13h.
Ah, une petite pastèque.
Là, ça a été désherbé, tu vois.
Ouais. Et donc, deuxième serre.
Là,
c'est un tomate. Et donc, vous avez un système d'arrosage qui tient en l'air, c'est ça ?
Oui, ici, on a tout en aspersion.
Et donc, on voit... j'explique pour la radio. Il hein.
ouais.
Y a la structure de la serre, puis il y a des barres horizontales en l'air.
Barres de culture.
Avec ouais, c'est les supports de culture.
Un tuyau qui tombe, enfin un tuyau qui passe sur ces barres, et un petit qui tombe, on dirait comme un Springer.
C'est de la micro-aspersion, ouais, c'est un petit Springer.
Ça fait pip, 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 ça
on
fait...
appelle ça de la micro-aspersion ouais, pendulaire.
Ça brumise, ouais. D'accord.
Ça brumise.
Ok, c'est efficace.
Super.
Donc je crois qu'une tomate jaune. Ah, du concombre! Du cornichon, je sais pas.
Concombre, et là, t'as des melons derrière.
Et donc, de la courgette, vous en faites sur les deux serres. Vous en faites plein de la courgette.
La courgette
ça se vend bien
dedans, dehors. Ben, celle qui est en serre, disons qu'elle vient tôt au printemps, donc quand les gens n'ont pas dans le jardin, là, mm-hmm. tu la vends bien. Mais l'été, quand il fait très chaud, comme tu vois, là, quand
ouais,
ça
ouais.
chope les maladies, elle fait vite. Elle fait
alors, c'est ça. Du coup, ça, c'est des maladies, la feuille toute blanche.
Ouais, c'est un oïdium.
Ah ouais.
Mais c'est pas très grave.
Oui, elle continue à vivre la plante quand même.
Elle continue à vivre ouais. quand même, et puis ouais. elle va faire son. Elle a déjà fait son office donc.
Ouais.
Ça va goûter le merde.
Ouais, ouais, fais gaffe. Hein.
Ici, avant, il y avait après, maintenant il y a
putain, plus. T'as de la prêle.
Ah ouais, à fond.
Ouais, c'est bon ça pour les purées, mais.
Oui, ah ouais, vous en avez une.
Tiens, elle est grande comme toi, Caro, la prêle.
Ouais, mais bon, je veux dire que je suis pas assez grande.
Un grand 1m59.
Donc là, on voit les tuyaux qui trempent dans le manargue. Pour alimenter la ferme. Qu'est-ce que t'en penses, Tilio ? C'est à peu près ça ? Je ne suis pas trompé ? Si on me regarde avec des yeux, les petits.
T'es encore là, toi ?
D'accord. Elle coule toute l'année.
Ouais.
Débit régulier.
Ouais. En 2003, elle ne s'était pas asséchée.
Ah.
On n'y était pas, mais...
Donc il paraît qu'en Aveyron, le chourou, ça pousse pas parce que c'est trop calcaire.
Bah, c'est très compliqué, mais en artiste têtu, bah, moi je fais des patates et des choux et j'y arrive.
Ah bah, bah écoute, quand t'es têtu, t'y arrives. Hein.
Exactement. Et là où, tu l'as où
non, après on a la chance d'avoir une terre très argileuse et de l'eau, ouais. de l'eau à gogo. Donc ça aide beaucoup pour le chou.
Ouais.
C'est ça la houe maraîchère.
Ah oui, la houe maraîchère, donc c'est une roue sur une espèce d'axe de. Comment on appelle la monte-charge ? Non, comment ça s'appelle ? Avec.
Et en fait, ça, tu peux le changer, tu peux mettre un sarcoir.
C'est un porte-outil, c'est un manche avec une roue.
Et oui, là, ça se change. Tu peux changer la partie juste du bas, la partie utile.
En fonction de la taille de l'utilisateur,
tu travailles et tu fais comme ça, le geste, il est comme ça.
C'est pas mal ça.
Du coup, c'est pas toi qui force.
Quand tu vas espacer mon rode, ça coûte 300 balles.
Et tu travailles de droit. Ça, c'est fabrication belge, c'est un peu plus cher que ça. Mais le jeu en vaut la chandelle. Hein, parce que tu travailles avec les deux droits. Tu fais 10 fois plus de boulot avec ça qu'avec une
normale. Tu vas te faire chier là, crac.
Une binette ou quoi, tu vas beaucoup moins vite.
Ah. Et ça, c'est l'outil pour soulager maman.
Ouais, je vois, le lit pliant au milieu des choux. Donc tu m'emmènes où là, Aurel?
On va passer par le poulailler.
D'accord. Ouais. Combien de poules, de coques, de poulets?
Une quinzaine de poules et deux congélateurs de poulet, et compagnie.
Tout ça c'est vivrier, c'est pas pour le vendre.
Non, c'est pour nous.
Ouais. Donc un grand poulailler.
C'est pour nous.
50 mètres de long.
Poulailler, il y a 2000 mètres carrés.
Donc de la poule rousse, de la poule noire, de la poule blanche. Ça, c'est pas une poule là-bas, blanc. Avec... Ah, une dinde. Ah, oh, des canards. C'est, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas tous le même âge. J'en vois qu'ils ont du vert un peu plus, un peu plus gris.
Il y a différentes races. Là.
Des, ah, il y a plusieurs races.
Des eaux guinées, des eaux grises, il y a des canards muins, il y a un peu de tout.
D'accord.
Ouais, on aime bien quand il y a plein de couleurs, plein de formes différentes.
Du coup, t'as le goût différent.
Eh ouais, c'est ça, ça varie les goûts.
Et ouais. Là, t'as un loup avec des dindes.
Ah oui.
Coucou. Aurèle, la prochaine vue, parce que tu les regarderas tes nanas.
Nous, nos enfants, on leur a bien expliqué le rapport à la mort, si tu veux, dans le sens où on tue nos animaux pour les manger, enfin, on élève des animaux pour les manger. Ouais. Aurèle qui chasse un petit peu, on chasse pour remplir le congélateur, pareil, ouais, c'est pas juste tuer pour tuer. Ouais. Et du coup, elles veulent assister aux tueries et tout, parce que c'est toujours fait dans le calme, il y a toujours une espèce de rituel autour de l'animal, avec ouais, on remercie l'animal. Ouais. Mais du coup, elles, la tuerie, c'est vraiment un truc qui les traumatise pas, quoi. Parce que ben, elles voient que c'est fait dans le respect. Que... Alors du coup, les agneaux, par exemple, ils ont tous un nom de plats, côtelettes, gigots, kebabs,
ouais,
les cochons,
c'est oh, vous les nommez comme ça,
jambon, rillettes.
Ouais, différents
états. On s'amuse. On s'amuse. C'est pas vraiment s'amuser. C'est, je trouve que c'est un rapport.
Ouais, tu comment
c'est
dire
sain, c'est vachement plus sain.
Regarde, lui c'est Rune, le petit copof.
Non, ça c'est quoi comme chien?
C'est un copof.
Un copof.
Ouais, il s'appelle Rune.
D'accord.
Et là-bas c'est Pif.
Pif le chien. Ben oui, moi je disais ça quand j'étais gamin.
C'est le. Ben t'as vu le gros pif qu'il a, il est tout cool. En fait, il a 9 mois. C'est pas un vieux pépé. Hein.
D'accord, ouais, il est tout gauchy déjà.
Et non, ça c'est sa couleur normale. Ouais. Et en fait, c'est le fils de ma chienne.
D'accord.
Et il est tout cool.
Merci à Aurèle et Caro pour leur accueil et bonne chance à eux pour la suite de leur projet. Retrouvez-nous en podcast sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous pour de nouvelles paroles rurales la semaine prochaine, même heure, même antenne.